Nous accueillons aujourd'hui Bernard Dutriot. Bernard Dutriot est chef du département de radiobiologie et de radiopathologie au CEA. Il est également cytogénéticien, non ? Spécialiste de cytogénétique en tout cas. Et il est directeur de l'unité mixte de recherche du CNRS à l'Institut Curie de cytogénétique moléculaire et de oncologie.
Merci. Je veux tout d'abord dire que je suis très heureux de faire cette conférence devant tant de monde et si près de mon domicile, ce qui fait que j'ai l'impression de le faire tout à fait en famille. Et je vais décomposer mon exposé en plusieurs parties. Je vais déjà essayer de vous montrer comment les progrès techniques en cytogénétique, c'est-à-dire en étude des chromosomes, ont permis, à partir d'une information qui, il y a quelques années encore, était relativement modeste, d'arriver à obtenir finalement beaucoup d'informations, non pas sur les gènes, comme vous le verrez, mais sur le support des gènes, sur le support génétique. Ça va nous prendre une dizaine de minutes. Et puis après, une fois que vous aurez compris comment on peut observer ces structures chromosomiques, on les utilisera pour progressivement comparer nos chromosomes à ceux de beaucoup d'autres espèces et reconstituer les caryotypes, le caryotype c'est-à-dire ce qui représente l'ensemble des chromosomes d'une espèce, les caryotypes ancestraux d'espèces qui nous ont précédés il y a très longtemps. On va remonter à moins 5-10 millions, moins 30 millions, moins 50 millions, pour arriver finalement à une reconstitution à peu près moins 100 millions d'années d'évolution. Et une fois qu'on aura reconstitué finalement ce qu'étaient, ou du moins ce qu'étaient les chromosomes de notre très lointain ancêtre, on refera le chemin à l'envers pour voir comment à partir de là les choses se sont différenciées, les choses c'est-à-dire les chromosomes, et puis finalement comment on va pouvoir situer notre propre espèce parmi, non pas tout le règne animal, mais en tout cas, je me limiterai aux primates, bien qu'on ait fait le travail sur d'autres ordres de mammifères. Et ça va nous amener pratiquement à la fin de la conférence. Et si je ne suis pas trop bavard, je ne le sais pas encore, j'aborderai un petit peu les problèmes qui ont trait aux conséquences de cette évolution au cours des millions d'années qui nous ont précédés, conséquences en termes de pathologie, pourquoi effectivement on peut avoir telle ou telle affection en relation avec ce qui s'est passé plus ou moins longtemps auparavant dans l'évolution. Alors, vous voyez ce transparent depuis un certain temps, c'est tout simplement pour vous dire que je n'ai pas été le seul à travailler sur le sujet, bien entendu, et ça, ce sont essentiellement des gens qui... des chercheurs qui ont travaillé ou qui travaillent encore dans l'unité et qui ont participé plus que d'autres, parce que d'autres personnes ont également participé à ce travail. Alors, un tout petit rappel avant de passer aux diapositives sur les primates. Je ne vais pas vous faire du tout un cours de systématique, c'est-à-dire on ne va pas apprendre ce que c'est qu'une famille, un ordre, etc. Mais enfin, je suis bien obligé quand même de vous donner quelques notions élémentaires. Les primates, ça comprend les singes. Ça comprend nous-mêmes, on s'est élégamment sorti du lot des singes parce qu'on se considère comme très différent de ce qui nous entoure. Et puis, il y a aussi les pré-singes ou prosimiens. Alors, les prosimiens, les voilà. Ils sont surtout représentés, ceux que vous connaissez, ce sont surtout les lémuriens de Madagascar qui représentent plus de 30 espèces. Mais il y a d'autres prosimiens qui vivent en Afrique et en Asie. Et au total, il y a à peu près 60 espèces différentes de prosimiens. Les simiens, ou singes proprement dit, plus nous-mêmes, comprennent deux infraordres, les singes du Nouveau Monde, qu'on appelle aussi platyriniens, une soixantaine d'espèces, et puis les catariniens, à peu près 70 espèces, et le tout nous amène très près de 200 espèces. Le travail qui a été réalisé sur les chromosomes a consisté à comparer les caryotypes, donc les chromosomes, d'une centaine de ces espèces de primates, c'est-à-dire à peu près la moitié. Alors, on aurait pu en faire plus, mais comme vous le verrez, certains groupes ont les mêmes chromosomes, donc on n'a pas cherché à comparer 50 fois la même chose, enfin 50 fois j'exagère, mais 10 fois la même chose, donc on n'a pas tout étudié. Cela dit, cela nous donne une vision assez large de l'évolution des primates, et cette étude sur les chromosomes est aujourd'hui encore alors qu'il y a d'autres approches qui ont été développées, la plus large qui a été développée sur la phylogénie, sur finalement les relations de l'homme et de toutes les espèces qui sont plus ou moins proches. Un troisième transparent qui va être un tout petit peu compliqué, mais je n'insisterai pas du tout dessus. Le génome humain, c'est-à-dire l'ensemble de nos caractères héréditaires, est porté par l'ADN, qui comprend 10 puissance 9 nucléotides, c'est-à-dire unités dans tout ce qui est le codage génétique. Le nombre de nos gènes, on ne le connaît pas encore exactement, il est autour de 100 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADN nécessaire pour fabriquer ces 100 000 gènes ne représente que 5% de la quantité d'ADN qu'il y a dans une cellule. Ce qui veut dire que nous ne savons pas la fonction de 95% de l'ADN, donc on va dire de 95% de ce qui représente les chromosomes que je vais vous montrer. Les chromosomes, ben chez l'homme, il y en a 46, c'est-à-dire 23 paires. Il ne faut pas oublier que ça marche par paire. On reçoit un chromosome pour chaque paire de son père et de sa mère, pas la même orthographe. Et chaque chromosome est constitué d'une seule molécule d'ADN. Un chromosome moyen, par conséquent, va contenir 3 à 4 000 gènes. Et comme vous le verrez, on sait faire apparaître des structures sur les chromosomes qu'on appelle des bandes. Et ça voudra dire que chaque bande va comprendre, en moyenne, c'est vraiment un aspect statistique, de 30 à 40 gènes. Une centaine de gènes, excusez-moi. Cela pour vous dire que je vais vous montrer tout le travail qui a été réalisé sur l'analyse des chromosomes et des bandes. Je ne vais pas vous montrer, sauf une fois, comment on peut visualiser un gène. Et bien entendu, ce que je vais vous dire ne va pas... Il ne faut pas demander aux techniques et aux études qui sont faites plus d'informations qu'on ne peut en donner. On va suivre l'évolution de ce qui est le support matériel des gènes, mais pas des gènes eux-mêmes. C'est un autre travail qui vous sera en partie, je pense, évoqué par d'autres intervenants. Cela dit, je pourrais répondre s'il y a des questions après là-dessus. Alors, on va passer maintenant aux diapositives. Et on va commencer donc par des aspects techniques. Alors je crois qu'il faudrait baisser un petit peu les lumières quand même, d'une façon générale. Non, pas tout éteindre, mais je pense que ça va gâcher un petit peu si on a trop de lumière. Alors, si vous pouvez passer la première diapositive. C'est moi qui dois la faire avancer. Voilà. Alors, ces 100 000 gènes sont contenus dans le noyau d'une seule cellule. Comme vous voyez, quand on regarde le noyau d'une cellule, un noyau quelconque, on n'a aucune information. Lorsque ces cellules se divisent, on voit apparaître des chromosomes. Voilà à quoi ça ressemble, sans artifice. Autrement dit, l'information est ici encore, elle est naturelle, là, mais elle est à peu près nulle. On a mis des années, depuis le début du siècle jusqu'en 1956, pour parvenir à compter le nombre de chromosomes qu'il y avait chez l'homme, 46. Donc, vous voyez, on sait depuis seulement 1956 qu'il y a 46 chromosomes chez l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, pour arriver à nos fins, on fait de la culture de cellules. Ça peut être très simple. Comme vous le voyez ici, il suffit de prélever quelques gouttes de sang au bout du doigt. Après, on fait de la culture. Pardon, je reviens. Comment ça se fait que ça revient à l'envers ? Et puis, je passe sur les techniques qui sont faites. On étale la suspension de cellules qui était en culture sur une lame. Cet étalement a été mis au point aussi il y a pas mal de temps, au début des années 60 ou à la fin des années 50. Et il aboutit finalement à un étalement de tous les chromosomes. Et évidemment, à ce moment-là, ils sont analysables. Vous voyez les noyaux ici à côté qui n'ont pas été modifiés. Donc là, on va pouvoir compter les chromosomes. Ça n'est pas une cellule normale, mais ça n'a pas d'importance. Alors, les techniques qui étaient utilisées autour des années 70 consistaient à prendre des photos, plusieurs photos. On découpait les chromosomes et puis après, on les reclassait grossièrement en fonction de la taille. L'étape d'après... j'espère que vous pouvez voir de votre place, a consisté à faire apparaître ce qu'on appelle donc des bandes sur les chromosomes. Et ces bandes vont permettre un nouveau progrès. C'est le début des années 70, oui, je pense que vous voyez mieux. Et voilà une autre cellule qui a été marquée par des chromosomes en bandes. La même chose, on a tiré des photos, découpé, et vous voyez que là, non seulement on peut apparier les chromosomes, mais on voit des structures tout le long des chromosomes qui sont identiques sur les deux chromosomes de la paire. C'est là-dessus que nous allons beaucoup travailler. Alors, je vais quand même revenir en arrière. Maintenant, autre amélioration. Regardez ces 6 chromosomes. On était très content d'obtenir ça au début des années 70. Et puis, des méthodes de perfectionnement. Je n'entre pas du tout dans le détail technique. Et vous allez avoir les mêmes 6 chromosomes quelques années plus tard avec des méthodes qui vont nous donner beaucoup plus de structures. Donc là, on va jouer maintenant sur un ensemble de 1000 structures chromosomiques qui vont, vous allez le voir, être très conservées durant l'évolution. Et ce qu'on va suivre, c'est les modifications de position de ces structures, soit d'un chromosome par rapport à l'autre, soit à l'intérieur d'un même chromosome. Alors, regardez bien maintenant ce chromosome 18, là. Tout ça, ce sont des chromosomes humains. Oui, il y a une amélioration possible. On va maintenant améliorer les choses en arrivant à localiser des gènes. Alors, voilà un même chromosome 18, et le petit signal vert que vous avez au bout, là, eh bien, c'est un gène qui a été localisé. Alors, il est tout petit, ce gène, mais c'est un peu comme un projecteur qui serait très puissant et qu'on regarderait à un kilomètre. De jour, on ne le verrait pas du tout, mais de nuit, on voit le signal lumineux, et bien là, on peut voir qu'il y a un gène. Autrement dit, quand on va comparer des chromosomes, on pourrait également voir, rechercher si les gènes se trouvent là où on les attend par rapport à la structure chromosomique d'une espèce à l'autre. Autre possibilité, au lieu d'utiliser le gène comme sonde moléculaire pour marquer un chromosome, on peut trier des chromosomes, en préparer une sonde moléculaire entière, qui va nous marquer, en fait c'est des petits morceaux de sonde qui vont marquer tout un chromosome, et puis refaire ce qu'on appelle une hybridation in situ sur le chromosome, et là on va littéralement peindre le chromosome. Alors ceci est une cellule de cancer humain où on a peint le chromosome numéro 11, vous le voyez, il a une coloration tout à fait différente, et dans cette cellule de cancer, on voit qu'il y a des modifications et que des petits morceaux de chromosome 11 sont allés s'accrocher, on dit se transloquer dans notre jargon, sur d'autres chromosomes. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que ces peintures, donc là je répète, on a une sonde qui va nous dire ça c'est l'équivalent de tous les composants de tel chromosome humain, eh bien il y a une telle conservation du matériel génétique au cours de l'évolution qu'on va pouvoir utiliser le contenu, la sonde d'un chromosome humain numérotant et l'hybrider sur une cellule d'un singe quelconque, et ça va nous dire d'emblée, ce chromosome, il correspond au chromosome 11, par exemple, humain. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est effectivement une peinture. Ça n'est pas le chromosome 11 humain, peu importe. C'est le chromosome 3 humain qu'on a utilisé comme sonde et qu'on a hybridé sur une cellule de macaque, donc une espèce qui est déjà assez loin de nous autres. Et vous voyez que l'on colore un autre chromosome. Donc, on sait déjà que tous les composants de ce chromosome se trouvaient sur un seul chromosome chez le macaque. Donc déjà, tous les composants de ce chromosome étaient présents, on le sait d'emblée, là, 30 millions d'années auparavant, puisqu'on estime qu'on s'est séparé de nos ancêtres communs avec le macaque il y a une trentaine de millions d'années. Cela dit, je ne vais pas vous montrer le travail à partir des peintures chromosomiques, on va revenir sur les bandes. Ce que je veux simplement vous montrer, je ne vais pas du tout entrer dans la technique, c'est qu'on a pu faire une autre amélioration, c'est avoir à la fois les bandes qui sont représentées sur ce schéma et la peinture qu'on a grâce à ces hybridations in situ. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Nous avons utilisé chez un singe qui est déjà très éloigné de nous, qui est un singe du Nouveau Monde. On estime qu'il s'est séparé il y a une cinquantaine de millions d'années de nous. Et on a hybridé la sonde du chromosome 12 humain. Et à nouveau, on voit qu'elle s'hybride sur un seul chromosome de ce singe. Donc, tout le matériel du 12 humain était déjà présent sur un seul chromosome il y a une cinquantaine de millions d'années. Alors, on va reprendre les choses maintenant, tranquillement, en revenant au marquage en bande chromosomique. C'est plus simple à suivre et vous verrez mieux le détail des chromosomes que si je vous montrais ça par peinture chromosomique. De toute façon, on n'a pas fait l'ensemble du travail par peinture chromosomique. Alors, voilà des chromosomes humains, rangés selon la nomenclature officielle. Et je vous montre tout de suite... Ah, alors là, il y a une erreur dans la... Alors, je vous montre tout de suite des chromosomes de chimpanzés qui sont rangés selon le même ordre. Alors, évidemment, vous n'avez pas l'œil cytogénétique, vous n'avez pas pu apprendre déjà, mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un demi-caryotype d'homme qui se trouve à gauche et un demi-caryotype de chimpanzé qui se trouve à droite. Ça, c'est le chromosome humain, ça, c'est le chromosome de chimpanzé. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des chromosomes qui sont tout à fait semblables et puis d'autres qui sont un peu différents. Les flèches indiquent qu'il y a eu des cassures fusion, et je vais revenir en arrière pour vous expliquer de quoi il s'agit. Ce n'était pas tout à fait dans le bon ordre, mais ce n'est pas grave. Voilà, les différents remaniements de chromosomes qu'on a pu mettre en évidence, eh bien, par exemple une inversion, c'est-à-dire qu'on va casser ce chromosome ici à peu près et là, et on va faire tourner l'ensemble. Ce qui fait qu'on va rabouter cette partie de chromosome ici et cette partie ici, et on aura réalisé ce qu'on appelle une inversion péricentrique, c'est-à-dire autour du centromère. Le centromère, c'est ça qui se trouve au centre du chromosome, c'est le moteur du chromosome. Ici, on a fait la même chose, sauf que l'inversion est dite paracentrique, c'est-à-dire du même côté du chromosome, le centromère il est au même endroit, mais tout ça est inversé. Donc ça, ce sont des accidents, là c'est chez l'homme, mais c'est le même type d'accident qu'on va retrouver dans l'évolution. C'est bizarre ça. Alors, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une translocation, voilà un 14 humain normal et un 5 humain normal, et puis un petit morceau entre ce 5 peut être échangé avec un 14. Donc c'est un peu le type de remaniement qu'on va voir dans l'évolution. Tout le matériel va être en place, mais les structures chromosomiques vont échanger ou se remanier à l'intérieur d'un même chromosome. Alors, je reviens à ma comparaison homme-chimpanzé. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, qu'il y a une douzaine de modifications qui vont séparer les chromosomes de l'homme et du chimpanzé. Alors, on peut faire exactement le même travail avec le gorille, l'orang-outan. Alors, je passe, je vais très vite. Ici, vous avez le même type de comparaison, mais cette fois, à gauche, vous avez des chromosomes de gorille, et à droite, vous avez des chromosomes de chimpanzé. Et alors, on arrive tout de suite à une conclusion du même type. Eh bien, ces chromosomes sont très comparables, et quand on compare les caryotypes l'un avec l'autre, eh bien, il y a à nouveau une douzaine de modifications. Si je vous montrais de l'orang-outan, une comparaison orang-outan-chimpanzé ou orang-outan-gorille ou orang-outan-homme, eh bien, nous aurions exactement les mêmes conclusions. Ça veut dire qu'en termes de modification des chromosomes, nous sommes à peu près équidistants, nous, par rapport au gorille ou par rapport au chimpanzé et par rapport à l'orang-outan, de même que ces animaux sont à peu près équidistants entre eux. Donc déjà, ça nous situe effectivement très près de ces animaux qui sont en train de disparaître plus ou moins de la nature. Alors, cette comparaison nous amène à reconstituer un caryotype ancestral, c'est le premier que je vais vous montrer, c'est-à-dire, selon un principe dit de parcimonie, si deux ou trois ou quatre espèces ont exactement le même chromosome, eh bien, on va tout simplement considérer que leur ancêtre commun avait, bien entendu, le même chromosome. C'est l'hypothèse la plus simple. Par exemple, le chromosome 6 est partagé entre l'orang-outan, le gorille, le chimpanzé et l'homme, d'où l'ancêtre commun à ces animaux et à nous-mêmes avait déjà ce chromosome. Alors, en fait, ce caryotype représente celui d'un animal qui a vécu il y a moins 5 à moins 10 millions d'années, qui est le caryotype du dernier ancêtre commun au chimpanzé, au gorille et à l'homme. Vous le verrez tout à l'heure, l'orang-outan s'est séparé avant dans cette évolution. Alors, juste deux, trois images de singes. Ça, ce sont des macaques. Ce sont ceux qui se disputent tout le temps sur le rocher du zoo de Vincennes, pour vous le situer. Je pense que vous les avez tous vus. Ça, c'est un babouin. Et ces animaux ont, ça nous a beaucoup étonnés à l'époque, le même caryotype. Alors, voilà les chromosomes. Bon, peu importe, ça ne vous intéresse pas tellement de voir ce caryotype, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce caryotype est parfaitement comparable à celui de l'homme. Et là, on a fait le même travail. À gauche se trouve un chromosome humain et à droite, un chromosome de macaque. Alors, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, eh bien, on voit qu'il y a des chromosomes qui sont tout à fait semblables, comme le 5, comme le 8, comme le 12 et quelques autres. Et puis, il y a des différences. Ces comparaisons ont été établies il y a une vingtaine d'années. Elles ont été intégralement confirmées par les méthodes moléculaires avec les sondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec les peintures. Donc, on peut effectivement reconstituer l'ancêtre commun, le caryotype de l'ancêtre commun au macaque qui nous ouvre toute la voie, toute la branche des cercopithèques, cercopithécoïdes, c'est-à-dire d'une soixantaine d'espèces africaines et asiatiques. On va pouvoir reconstituer le caryotype ancestral. Mais on va aller tout de suite beaucoup plus loin et nous voilà dans le continent américain maintenant, avec un singe qui s'appelle Capucin, vous voyez pourquoi, c'est le Cebus capucinus, sur lequel on a beaucoup travaillé, vous verrez aussi pourquoi. Voilà un autre singe sud-américain, qui est le singe écureuil. Au passage, on les appelle platyriniens, vous voyez qu'ils sont déjà très différents de nous, en tout cas au niveau du massif facial, platyriniens, car ça veut dire nez aplati, et vous voyez, les narines sont très écartées. Alors, celui-ci est très beau, ça c'est un singe que vous connaissez aussi, il est petit, c'est le Ouistiti. Et puis en voilà un autre pour vous montrer la variété de ces animaux. Alors lui, on le trouve tout à fait hideux, peut-être parce qu'il nous ressemble un peu dans la mesure où il n'a pas de pelage sur la figure. Et je pense que nous, par rapport aux singes, on doit leur donner un petit peu cette impression. Donc ça incline peut-être à être modeste. Alors, on revient au singe capucin que je vous ai montré tout à l'heure en image. Et voilà ses chromosomes. Alors, quand on essaye de comparer d'emblée les chromosomes humains à ceux de cette espèce, on est évidemment complètement désemparé. Il faut faire intervenir des techniques que je ne vais pas détailler, de haute résolution d'analyse chromosomique impliquant des méthodes jouant sur la réplication des chromosomes, mais je n'ai absolument pas le temps de développer ça. Et quand on fait ce genre de travail et que l'on compare les chromosomes humains à ceux de cet animal, eh bien, on voit qu'il y a des séquences de bandes qui sont très semblables. Là, je vous ai montré tout à l'heure la peinture du 12, c'était sur cet animal. Ben, on voit que les bandes sont là, elles ne sont pas au même endroit, donc il y a eu des remaniements, et c'est ça qu'on va essayer de reconstituer tout à l'heure, etc. Donc on peut faire ces comparaisons, et voilà une peinture du chromosome 20, par exemple, toujours sur ce Cebus capucinus. On utilise donc la sonde d'un chromosome humain, et maintenant, d'emblée, on a et les bandes chromosomiques liées à la réplication, et la vision du chromosome, qui est l'équivalent du chromosome humain qu'on a testé. Alors, nous avons étudié une trentaine d'espèces de ces singes du Nouveau Monde, et on a fait exactement le même travail de reconstitution des points communs pour dresser leur karyotype ancestral commun. Donc ceci représente le karyotype ancestral des singes du Nouveau Monde, c'est-à-dire un karyotype d'un animal qui a vécu il y a une cinquantaine de millions d'années de notre ère. Alors, on n'a aucune idée de sa tête, mais on connaît bien ses chromosomes, beaucoup mieux que n'importe quel autre caractère, finalement. Vous me direz à quoi ça sert, ben, je vous le montrerai tout à l'heure. Alors, on passe maintenant à l'autre groupe de primates, qui est celui des prosimiens. Alors ça, c'est un galago, c'est un petit animal qui vit en Afrique. Et puis, voilà un autre animal sur lequel on a beaucoup travaillé, qui s'appelle le Microcebus. Le Microcebus, ça veut dire petit singe, et son deuxième petit nom, c'est Murinus, c'est-à-dire comme une souris. C'est un primate, et il tient dans le creux de la main, il a effectivement la taille d'une souris. Donc c'est un animal qui, pour nous, va nous sembler très primitif. Effectivement, il a conservé un karyotype, c'est celui-là, qui est très primitif. Et, bon, je n'insiste pas du tout là-dessus, ce que je vous montre à nouveau, c'est une comparaison. Alors, pour savoir si on ne se trompe pas dans ces reconstitutions, il est évidemment très intéressant de comparer ce qu'on a reconstitué pour un groupe à soit un karyotype d'un autre groupe, soit une reconstitution d'un autre groupe. Car si on se trompe, eh bien, on doit avoir des choses complètement différentes. Si on ne se trompe pas, progressivement, puisqu'on vient progressivement vers l'ancêtre, on va vers l'ancêtre, on doit avoir des similitudes. Alors, c'est exactement, et heureusement, ce qui se passe, sinon je ne serais pas là pour vous l'exposer. Ici, nous avons mis un demi-karyotype hypothétique de l'ancêtre commun à tous les platyréniens, c'est le chromosome de gauche, et à droite, nous avons mis directement les chromosomes de ce tout petit primate du Microcèbe. Et comme vous voyez, eh bien, on a donc deux groupes complètement différents, eh bien, leurs chromosomes se ressemblent énormément, d'où l'idée à nouveau, ben voilà un chromosome qui est apparemment identique, eh bien, a priori, il était présent dans l'ancêtre et des prosimiens et des simiens, puisqu'on le retrouve identique dans les deux groupes. Ça, c'est juste pour vous montrer une image de carnivore. Je ne vais pas vous parler beaucoup de carnivores, si ce n'est que pour vous dire qu'on a fait le même type de travail chez les carnivores. C'est une mangouste, en l'occurrence, ici. Et on a reconstitué, à nouveau, le karyotype de l'ancêtre de ces carnivores. Ça représente des années de travail, ça, hein. Je vais très, très vite. On a comparé beaucoup d'espèces avec beaucoup de techniques pour arriver à ce résultat. Alors, une fois qu'on a fait cette reconstitution, à nouveau, on va comparer ce karyotype des carnivores, qui est à droite, là, pour chaque paire, à celui des platyréniens, reconstitué également. Et à nouveau, vous voyez qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a des différences qui s'expliquent par des inversions ou des translocations, comme ici, mais il y a beaucoup de similitudes. Donc, on est sans doute près de la vérité, puisque là, on compare les chromosomes de carnivores avec des chromosomes de primates, on est vraiment très très loin dans l'évolution. Alors, pour en arriver à la fin de cette reconstitution des ancêtres, eh bien, là, on a comparé des chromosomes d'édentés. Les édentés, c'était un tatou. Le karyotype ancestral reconstitué des carnivores, des platyréniens, des prosimiens, c'est-à-dire des lémuriens, entre autres. Ça, ce sont des chromosomes de lapins, qui représentent un autre ordre, qui est celui des lagomorphes. Et ça, ce sont des chromosomes de rongeurs. Et on a sélectionné là l'écureuil commun, vulgaire, qui est un des rares rongeurs à avoir gardé un karyotype relativement pas trop modifié. Et quand on fait cette comparaison, ben effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de segments chromosomiques communs, il y a aussi des différences, et cette comparaison sur laquelle je ne m'étends pas du tout, nous amène à reconstituer ce karyotype ancestral. Alors on sait qu'il est un peu faux, On a fait des progrès depuis cette reconstitution grâce aux peintures chromosomiques, mais je n'ai pas eu le temps de tout reconsidérer, car c'est un travail qui n'est pas terminé. Mais je pense que d'ici à quelques mois, on sera en mesure de modifier ce karyotype pour supprimer toutes les imperfections et donner vraiment ce qu'était le karyotype assez exactement de l'ancêtre de tous les mammifères placentaires, c'est-à-dire d'un animal qui a vécu il y a une centaine de millions d'années. À nouveau, on connaît déjà, d'ores et déjà, beaucoup mieux ces chromosomes que n'importe quel autre de ces caractères. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, à reconstituer la phylogénie. C'est pour ça que vous êtes venu m'entendre, je présume, pas pour m'entendre parler des karyotypes des ancêtres. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, voilà un exemple qui est un des tout premiers que nous avons utilisé. Ceci représente le chromosome 2 humain. C'est un seul chromosome. Chez le chimpanzé, on a deux chromosomes différents qui ont... Alors, le centromère, le moteur du chromosome, il se trouve là. Ben, c'est le même que celui de ce chromosome-là de chimpanzé. Par contre, là, le moteur, le centromère, a disparu. Par contre, on reconstitue très bien ce chromosome par la fusion de ces deux-là. Chez le gorille, eh bien, ce chromosome-là est le même que celui-là. Par contre, celui-là a un centromère à son extrémité. Donc, il y a eu une inversion, c'est ce qui est représenté là, de ce segment pour arriver à ce chromosome. Chez l'orang-outan, eh bien, les deux chromosomes ont leur centromère à l'extrémité. Donc, il y a eu une inversion, ici, pour arriver à cette forme-là. Donc, on a un ordre. On n'a pas un sens, mais on a un ordre. On sait que d'un côté, il y a l'orang-outan, de l'autre, il y a l'homme, et entre les deux, il y a, à partir de l'homme, le chimpanzé et le gorille. Maintenant, le sens n'était pas absolument évident, mais l'homme est le seul à posséder un chromosome comme ça, alors que les chromosomes de l'orang-outan, eh bien, on va les retrouver pratiquement semblables chez le lapin, par exemple, donc, et chez beaucoup d'autres espèces. Donc, les formes ancestrales, elles sont par là. Donc, l'ordre des choses, on peut le fixer, on est parti de ces chromosomes-là, pour aller vers ces chromosomes-là. Bien sûr, il y a d'autres branches avec d'autres modifications, et pour aller finalement vers la forme humaine. Alors, c'est donc le principe que nous avons utilisé, on va arrêter les diapositives là, c'est le principe que nous avons utilisé pour la reconstitution de cette évolution chromosomique. Alors, maintenant, les images vont être un peu moins belles, c'est-à-dire, je ne vais pas vous montrer des chromosomes, la technique me dépasse, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ce que je voudrais, c'est avoir l'image du transparent. Voilà, merci. Alors, ce n'est pas très, très net. J'espère que ça va s'arranger. Alors, nous avons donc vu que la modification de la position de ces structures chromosomiques, de ces bandes, va nous permettre de jouer sur... C'est une sorte de chapelet, hein, à chaque fois. Chaque chromosome va être une sorte de chapelet. Et chaque chromosome, fort heureusement pour nous, a évolué un petit peu pour son propre compte. Donc on va comparer des chapelets de bandes, et avec toute cette comparaison, on va essayer de trouver un schéma unique dans l'évolution. Alors, le principe, c'est pas net du tout, je ne sais pas si ça peut être amélioré. Moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Bon, alors, de toute façon, je vais vous l'expliquer. C'est pas net, la projection, là. Alors, on va considérer, pour vous expliquer le principe, cinq modifications chromosomiques qui différencieraient le karyotype de deux espèces de celui de leur ancêtre commun. Alors, oui, on va peut-être zoomer, ça sera mieux. Bon, pas trop quand même, parce que... Oui, mais enfin, je voudrais quand même... Bon, alors, on va considérer cinq modifications chromosomiques. Alors, on va imaginer que le chromosome 1 est le même chez l'espèce A et chez l'espèce B, mais différent de celle du chromosome de l'ancêtre. On suppose que l'ancêtre est connu, et vous avez vu que ça n'est pas théorique. On va imaginer que le chromosome 2 est modifié chez l'espèce A, mais pas chez l'espèce B. On va imaginer que le chromosome 3 est modifié chez l'espèce B, mais pas chez l'espèce A. On va imaginer que le chromosome 4 est modifié, mais différemment à la fois chez A et chez B. C'est très proche de ce que l'on observe en réalité. Alors là, j'ai un zoom, mais qui ne va pas du tout bien. Je ne peux pas remonter, hein, sinon. On va imaginer que le chromosome 5 est différent chez l'espèce A et chez l'espèce B, mais que la modification de B se trouve intermédiaire entre l'ancêtre et l'espèce A. Et tout ceci, maintenant, doit être mis sur un même schéma. C'est la difficulté de la chose. Alors, Voilà le schéma qui fait la synthèse de l'ensemble, ce qui est encore assez facile. Hein. Je reprends la modification de 1 que vous avez en haut. Eh bien, elle est sur un tronc commun, nécessairement. Donc, c'est ce que vous voyez ici. La modification de 5A, elle est sur un tronc commun. Par contre, la modification de 2, elle est sur la branche de A, et la modification de 3 sur la branche de B, c'est ce que vous revoyez là, etc. Alors, s'il n'y avait que 5 chromosomes et 2 espèces, le travail aurait été évidemment facile. Nous avons, pour les primates, je vous l'ai dit, travaillé avec une centaine d'espèces, et le caryotype moyen des primates, il est entre 40 et 70 chromosomes, enfin entre 20 et 72, plus, si on veut prendre toute la fourchette, ce sont des paires, donc il faut diviser par deux. Enfin, vous voyez le type de problème qu'il a fallu résoudre, et autant vous dire que ça nous a pris quand même une bonne quinzaine d'années de reconstitution et de progression progressive. Alors, en fait, si effectivement on ne comparait que deux espèces, comme je vous disais, le travail serait assez simple. Mais en réalité, on étudie beaucoup d'espèces. Et alors, si on arrive à considérer une troisième espèce, on va voir qu'elle possède différents autres remaniements. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que, comme vous ne voyez pas bien les transparents, vous n'arriverez pas bien à me suivre. En tout cas, les modifications acquises par l'espèce C vont nous permettre de dire qu'il y a le 1 et le 5A qui est commun avec tout le monde, le 4B qui est commun avec l'espèce B. Par contre, c'est tout, mais cette espèce a le chromosome 6 et le chromosome 7 modifiés pour son propre compte. Donc, on va le greffer là. Alors, j'ai un petit problème quand même parce que j'ai vraiment des informations précises à vous donner par les transparents et j'ai peur que ça ne sorte pas bien. Alors, l'une des difficultés qui est apparue, c'est qu'on aurait bien aimé que l'évolution fonctionne de cette façon, c'est-à-dire qu'on reconstruise un arbre dichotomique, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comme un arbre, ça se divise. Mais la dichotomie, la division simple, autrement dit qu'une espèce naisse comme un clone à partir d'un autre, ça peut être aussi bien une vision de l'esprit. Rien n'autorise à dire que ça se passe comme ça. Et en réalité, vraisemblablement, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas d'un seul coup une espèce qui naît à partir d'une autre. Alors, quand on regarde les chromosomes de quelques espèces proches, en réalité, le plus souvent, on voit qu'une modification chromosomique, par exemple celle-ci, va être partagée par ces deux espèces, mais une autre, comme celle-ci, va être partagée par l'une des deux et par une troisième. À ce moment-là, la dichotomie, l'embranchement ne va pas être possible et il faut imaginer un tout autre système qui est une évolution qui est d'ailleurs beaucoup plus naturelle quand on y pense, mais j'y reviendrai, une évolution en réseau. Je reviendrai là-dessus. Alors, qu'en est-il ? Ça, c'était la théorie, mais on peut aller beaucoup plus loin que la théorie. Qu'en est-il quand on considère, l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Alors, je vais diminuer un peu parce que quand même, il faut que vous ayez une vision d'ensemble, mais ça a l'air d'être un peu... Alors, voilà l'ensemble des modifications chromosomiques entre l'homme, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. On prend tous les chromosomes à la suite les uns des autres et, horreur, on a un schéma qui est pratiquement toujours différent du précédent. Alors, on se dit, c'est très embêtant, c'est très compliqué, mais en réalité... l'évolution a fonctionné comme ça, comme je l'ai dit en commençant. Chaque chromosome a un petit peu évolué pour son propre compte, comme les gènes, comme beaucoup de gènes. Et ça aussi, ça vous explique toutes les difficultés qu'ont les gens à s'entendre sur l'évolution, parce que si je n'avais travaillé que sur un chromosome, c'est-à-dire sur un gène, comme le font des gens, ils diraient l'évolution, elle marche comme ça. Et puis si j'avais travaillé sur un autre chromosome ou sur un autre gène, j'aurais dit l'évolution, elle marche comme ça. Et les gens ne sont pas d'accord, bien souvent, parce que justement, ils ne regardent qu'une seule fraction de toute l'information. Et la puissance de la cytogénétique, c'est qu'on va jouer à la fois sur l'ensemble du génome, sur l'ensemble des chromosomes, et le schéma qu'on doit obtenir, il doit être cohérent avec toutes les observations. Donc ça, c'est une difficulté dans l'analyse, mais c'est un très gros avantage pour, je pense, la qualité du résultat final. Il n'empêche que, comme je vous disais, cette évolution n'est pas aussi simple qu'on aurait aimé, et voilà les schémas que l'on peut reconstruire. On va agrandir un petit peu pour que vous y voyez quelque chose. J'aurais aimé que vous le voyiez sur l'ensemble. Mais... Alors, voilà, quand on considère l'homme, les chimpanzés, car il y a deux espèces de chimpanzés, le gorille et l'orang-outan, voilà un schéma qu'on obtient. Et celui-ci nous oblige à une chose qui n'est pas agréable du tout. Il nous oblige à imaginer que trois remaniements, chaque symbole représente un remaniement chromosomique, ce sont des inversions péricentriques, des inversions, que trois d'entre elles sont communes au chimpanzé et à l'homme. Alors on va dire, ben, c'est le chimpanzé et l'homme qui sont, enfin le chimpanzé est l'espèce la plus proche de l'homme. Mais ce qui n'est pas agréable du tout, c'est que trois autres modifications, dans ce cas-là, ben, elles sont survenues chez le gorille, chez le chimpanzé, donc il faut imaginer qu'il y a eu convergence, que par hasard, dans cette partie de l'arbre et de l'évolution, trois mêmes modifications sont survenues dans deux branches différemment. Il est certain que ce n'est pas satisfaisant comme interprétation. Ça peut arriver, bien sûr, mais ce n'est sûrement pas si fréquent que cela. L'autre interprétation, ben, c'est exactement la réciproque. On va imaginer que trois modifications chromosomiques sont communes aux gorilles et aux chimpanzés, et puis que par convergence, les chimpanzés et l'homme aient acquis les mêmes modifications. Ça n'est pas non plus très satisfaisant. Et en réalité, ce qui est effectivement satisfaisant, c'est d'arriver à un schéma de ce type, où vous avez des branches propres à chaque espèce, mais à un moment donné, une évolution dans une population, et ce n'est que progressivement, à l'intérieur de cette population, qu'ont été localisées telle et telle anomalie chromosomique. Autrement dit, vous imaginez une population comme une mare. Au niveau de la mare, il y a une goutte qui tombe, et la mutation va se répandre comme l'onde que va créer la goutte qui tombe dans l'eau. Et puis il y a une autre goutte qui tombe, ça va être une autre mutation qui va tomber ailleurs et se répandre de la même façon. Et par endroit, dans cette flaque d'eau, les deux ondes vont se mélanger. Ben, vous aurez des sortes d'hybrides avec deux anomalies, deux mutations, enfin deux modifications, etc. Donc vous faites tomber des gouttes comme ça dans votre mare, et selon l'endroit où tombent les gouttes, vous allez avoir des additions différentes de ces mutations qui vont survenir dans la population. Donc l'évolution, elle marche comme ça, elle ne marche pas par d'un seul coup, il se passe quelque chose de merveilleux, et hop, une espèce jaillit à partir d'une autre. D'ailleurs, si on y réfléchit, ce serait absolument dramatique si une évolution devait naître comme ça demain à partir de l'espèce humaine. Vous vous rendez compte le drame que ça représenterait. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche beaucoup plus en douceur, et on va voir que ce n'est pas évidemment limité à ce qui nous entoure directement. Alors, je vais vous montrer une image qui va devenir très compliquée maintenant, et je crains que le projecteur ne soit pas à la hauteur de la complexité de l'image. Enfin, bon, je vais vous la commenter, hein, rassurez-vous. Ceci représente effectivement une bonne quinzaine d'années de travail, de reconstitution. C'est l'arbre tel que nous l'avons reconstitué à partir de l'évolution des primates. Et vraiment, je pense qu'un bon vieux projecteur de transparence, c'est beaucoup mieux que cette chose que vous me donnez. Alors, à partir de l'ancêtre primate, à l'époque, nous n'avions pas été capables de reconstituer un tronc commun. On sait aujourd'hui, grâce aux peintures chromosomiques, qu'il y a un tout petit tronc commun à partir des ancêtres des autres mammifères. Alors, juste deux mots sur ce qu'on a fait sur les autres mammifères, je ne vous le montre pas, mais on a progressé, ça n'est pas indiqué là, et on sait que, pratiquement, il y a eu donc, ce caryotype ancestral des mammifères, et que les différents ordres, les carnivores, alors je ne vais pas vous citer les ordres, mais je vais vous citer les animaux, les vaches, les cochons, les baleines, enfin, etc. Donc tous les ordres dont dépendent ces animaux sont issus de cette population sans qu'il y ait eu de grands bouleversements chromosomiques. Il n'y a pas, autrement dit, de tous les côtés, tout se greffe presque directement sur la population ancestrale. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de chamboulement extraordinaire, qu'il n'y a pas eu ce qu'on imagine, les cataclysmes à l'origine, les volcans, les radiations, etc. Ben, on n'en voit pas la trace, en tout cas au niveau des chromosomes. Tout ceci semble s'être fait beaucoup plus en douceur qu'on pourrait imaginer. Alors, revenons aux primates simplement. Eh bien, à nouveau, à partir de l'ancêtre des primates, très proche de l'ancêtre des mammifères en général, il y a deux branches très courtes, l'une qui va vers les prosimiens, c'est-à-dire les lémures de Madagascar. Ils sont tous au bout de cette branche, les lémures de Madagascar. Alors, on va zoomer un tout petit peu maintenant. Alors, voilà les lémures de Madagascar dans notre arbre. Et ce qui a été aussi très satisfaisant pour nous, c'est-à-dire qu'on a reconstitué cette phylogénie par l'accumulation, la succession des modifications chromosomiques, chacune représentée par un symbole différent en fonction des types de remaniements. Et ce qui a été très satisfaisant, disais-je, c'est qu'il y a une très grande congruence avec la systématique. C'est-à-dire que les systématiciens qui avaient travaillé sur la morphologie des animaux avaient créé ici une famille. Eh bien, cette famille se trouve au bout d'une même branche. Elle a un tronc commun. Elle n'est pas dissociée en deux. Voilà une autre famille. Bon, là, c'est un animal qui ne représente qu'une seule famille à lui-même, par lui-même, etc. Voilà une autre famille. Il n'y a aucune discordance, aussi bien chez les prosimiens que chez les singes proprement dit. Donc, moi, j'en conclus que les systématiciens, ils ont bien travaillé, puisque leurs résultats vont tout à fait dans le sens des nôtres. Bien entendu, ça pourrait être qu'un hasard, mais enfin, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de données pour dire, finalement, toutes ces données collent très bien. Alors, on a un petit tronc commun pour tous les simiens, puis après, on a les singes du Nouveau Monde qui se détachent, ici. Bon, je ne vais pas entrer du tout dans le détail. Il y a ensuite, on va aller vers l'homme, là, un long tronc commun qui, moi, me pose beaucoup de problèmes, parce que, vous voyez, il y a beaucoup de remaniements chromosomiques qui se sont accumulés, et on ne connaît pas les chaînons intermédiaires. Alors, est-ce que ça veut dire que là, il y a eu de grands bouleversements, autrement dit, une évolution très rapide, de telle sorte qu'on ne connaisse pas les intermédiaires, ou au contraire, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu tous les fossiles qui nous auraient intéressés, enfin, du moins qu'on ne les a pas encore trouvés, ou qu'ils ont peut-être été détruits, je ne le sais pas. En tout cas, il y a un tronc, là, avec beaucoup de mystères. Nous arrivons aux ancêtres cathariniens, ici. Une branche se sépare et va vers les macaques, je vous ai montré des photos, et puis vers les cercopithèques. Alors les cercopithèques, vous allez me dire, mais vous fichez de moi, vous nous montrez un arbre phylogénétique, mais ça ressemble en rien à un arbre, c'est un forme, il y a des grosses bulles, etc. Alors, les cercopithèques représentaient la partie du travail la plus compliquée que nous ayons eue. En effet, il se trouve que là, d'abord, le caryotype a évolué de façon très inhabituelle par fission, c'est-à-dire que les chromosomes se sont fragmentés. On est parti d'un ancêtre à 44 chromosomes, on arrive ici à 72. Et puis, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de ces remaniements chromosomiques ont été partagés. Vous voyez, les branches propres à chaque espèce sont très courtes en termes de remaniement chromosomique, voire il n'y en a pas du tout, elles se détachent directement. Alors ça, c'était extrêmement difficile à reconstituer. Et puis, il faut dire que les systématiciens à l'intérieur des cercopithèques sont complètement perdus. Alors, il y a quelques années, il y a eu une réunion entre systématiciens et tous les gens qui travaillaient sur les cercopithèques dans le monde, et on a essayé de mettre toutes nos données en commun. Et je pensais me faire écharper parce que je me disais, mais ils ne vont jamais admettre ça. Mais finalement, comme ils n'avaient pas d'idée de phylogénie, l'idée est très bien passée. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans cette réunion, c'est qu'il y avait des gens qui travaillaient sur le terrain. Et si je vous dis qu'une évolution de ce type, des phénomènes de spéciation de ce type peuvent se passer, ça a une conséquence. C'est qu'il doit y avoir des hybrides, puisqu'on a des formes chromosomiques qui sont distribuées d'un côté et de l'autre. Donc, la question, mais est-ce que cette théorie que vous proposez, elle se vérifie sur le terrain? Eh bien, il est évident que si ce n'était pas le cas, je ne vous aurais pas introduit cela. Oui, effectivement, il y a des données aujourd'hui sur le mode de vie de ces animaux qui renforcent considérablement l'interprétation que j'en donne. Alors, qu'est-ce que c'est ces données? Eh bien, ce sont des gens qui ont observé sur le terrain comment vivaient ces cercopithèques. Alors, c'est justement des cercopithèques qui dépendent de cette espèce-là, enfin, qui sont de cette espèce-là, de celle-là et ici. Donc, ils ont observé les groupes d'animaux, je ne sais pas comment ça s'appelle au niveau des cercopithèques, ce n'est pas une horde, mais enfin, ils ont des groupes. Et première stupéfaction, ces animaux vivent en groupes plurispécifiques. Dans la journée, il y a une bande de cercopithèques qui dépend de trois espèces, qui appartiennent à trois espèces différentes. Deuxième sujet d'étonnement, il y a là-dedans un mâle qui est un mâle dominant. Bon, ça, c'est assez banal dans la nature, mais la morphologie de ce mâle, eh bien, ce n'était pas celle d'une espèce, c'était celle d'un hybride. Donc, autre facteur qui va tendre à faire ces hybridations, si je puis dire. Et alors, ce qui était assez drôle, c'est que ces espèces vivent toute la journée, se nourrissent en groupe, et d'après ce qu'il racontait, le soir, tous les animaux d'une espèce allaient dans un arbre, dans un seul même arbre. Et donc, on avait trois arbres occupés par trois espèces dans la nuit, et le matin, le mâle dominant allait d'un bout à l'autre, ramenait tout le monde, et tout le monde vivait ensemble. Donc, effectivement, aujourd'hui, on peut avoir à nouveau le... Voilà. Aujourd'hui, eh bien, on a exactement le mode de vie qu'on attend, si ce type d'évolution existe, avec des bandes de plusieurs espèces qui vivent ensemble, et qui s'hybrident, et qui vont mettre donc leurs mutations en commun, ce qui va favoriser. Donc, autrement dit, on peut penser que ces espèces sont relativement très jeunes, beaucoup plus jeunes que la nôtre. Elles ne se sont pas encore véritablement individualisées. Et ce n'est qu'avec le temps qu'on verra pousser les branches et qu'on verra des groupes se séparer de plus en plus. Mais ça va peut-être prendre des milliers ou des millions d'années d'évolution. Alors, finalement, Ce type d'évolution, on le retrouve un peu partout. Et bien entendu, les hominidés, l'homme, eh bien, il se retrouve là, quelque part, parmi les autres. En soi, c'est très banal, si on peut dire. Sa branche est d'une longueur moyenne. Il a partagé cette évolution populationnelle avec le chimpanzé, enfin, les ancêtres du chimpanzé et du gorille. Et puis, en même temps, on a une autre information, c'est qu'il y a un tronc commun, et ce tronc nous sépare de l'orang-outan. Donc, dans l'évolution, on a d'abord eu l'orang-outan qui s'est séparé, et puis nos ancêtres ont été communs avec le chimpanzé et le gorille pendant assez longtemps. Donc, nos ancêtres ont très certainement ressemblé de très près à ce que sont aujourd'hui encore ces singes, puisqu'on les retrouve là, là et là, à trois points distants de notre évolution. Et dans notre évolution, ça veut dire que nous avons partagé, si on repart du bas, si on repart simplement de l'ancêtre mammalien, tout ça a été partagé entre nous et les chimpanzés et gorilles. Donc vous voyez la proximité génétique très importante que nous avons avec ces animaux. Il me reste combien de temps ? Ah, ça va, très bien. Alors, donc, voilà ce qu'on peut déduire de cette phylogénie. Je ne vais pas entrer dans les mécanismes. S'il y a des questions, j'y répondrai avec plaisir, mais ça devient un petit peu plus compliqué, je veux dire des mécanismes chromosomiques. Et je vais consacrer donc les 10-15 dernières minutes à vous parler des conséquences que pourraient éventuellement avoir ces modifications chromosomiques qu'on a vues s'instaurer progressivement au cours de l'évolution. Alors, la première des conséquences, on peut revenir à la diapo, vous allez avoir des images un peu plus belles maintenant, pour celle-là en tout cas. Une conséquence qui nous avait beaucoup étonné à l'époque, donc on revient, vous souvenez, je vous ai montré l'évolution du 2 humain, et tout, à la diapo précédente, on s'était arrêté là. On avait été très étonné de voir que chez certaines personnes, je parle d'individus mais humains cette fois-ci, eh bien, il y a ce qu'on appelle une fragilité du chromosome, et vous la voyez, la fragilité, elle se traduit par des cassures. Alors au début, on avait dit, c'est que c'est mal collé, mais enfin, évidemment, c'est une interprétation tout à fait grossière. Cet accident s'est produit quand même il y a des millions d'années. Mais en fait, on sait aujourd'hui que le chromosome porte différentes structures très importantes, le centromère, je vous en ai parlé, puis aux extrémités des chromosomes, il y a ce qu'on appelle des télomères, qui font que c'est la fin du chromosome. Ces télomères posent beaucoup de problèmes, d'ailleurs, parce qu'ils se raccourcissent avec le vieillissement de l'individu, avec les divisions cellulaires. Et en fait, ça veut dire que dans cette évolution, eh bien, il s'est créé un seul chromosome. Ça veut dire qu'un des deux centromères, c'est un des deux moteurs du chromosome, a disparu. Il se situe là, mais on ne le voit pas. Et les télomères, les extrémités chromosomiques, ont fusionné. Eh bien, aujourd'hui, par les méthodes moléculaires, on voit qu'effectivement, il reste quelque chose qui a la même séquence que les télomères, qui se trouvent intercalés. Et de temps en temps, on sait qu'il y a des amplifications de certaines séquences répétées à l'intérieur des chromosomes. Ça induit ce qu'on appelle des sites fragiles. Et voilà un site fragile. Et vous voyez que ce chromosome, non seulement se casse à cet endroit, mais quand il se casse, on voit réapparaître cette structure de constriction qui est typique d'une structure de centromère. Donc, voilà un accident qui s'est produit il y a quelques millions d'années, qui a intercalé des structures, et ça se retrouve. Alors, ceci ne semble pas avoir de conséquences pathologiques bien définies pour le chromosome 2. On l'a repéré chez des patients, mais qui vraisemblablement avaient été étudiés pour de toute autre raison. Mais par hasard, on a trouvé ça. Par contre, il y a un autre site fragile qui est très important, qui est sur le chromosome X, qui entraîne une débilité mentale chez les hommes, et qui est une des maladies génétiques, voire la maladie génétique la plus fréquente. Cela dit, on ne voit pas par les modifications des chromosomes pourquoi il y a ce site fragile au niveau du chromosome X. C'est une toute autre histoire. Alors, ce dont je voudrais vous parler maintenant, je crois que c'est la dernière. Il y a une autre diapositive ? Oh, pardon, c'est moi qui l'ai. Non. Bon. Alors, ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est de l'origine du chromosome 21 humain, un peu plus en détail. Parce que le chromosome 21 est un des chromosomes qui ennuie le plus l'espèce humaine, parce qu'on sait que la trisomie 21, c'est-à-dire le fait d'avoir 3-21 au lieu de 2, entraîne une maladie très grave, qui est la trisomie 21, qu'on appelle aussi mongolisme. C'est une maladie qui n'est pas très rare, qui touche un enfant sur 700 à peu près à la naissance, dont on peut faire le diagnostic prénatal d'ailleurs, mais qui est quand même une maladie vraiment qui est perçue par l'homme d'aujourd'hui comme quelque chose de très 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 grave et très ennuyeux. Et évidemment tout à fait perçue par les familles qui ont un enfant atteint. Alors, je vais vous remontrer des transparents. Alors, l'origine du 21 humain, eh bien, je vous ai dit tout à l'heure, on a reconstitué le caryotype de notre grand ancêtre qui a vécu il y a une centaine de millions d'années. Eh bien, dans ce caryotype vieux de 100 millions d'années, le chromosome 21 était accroché au chromosome 3, enfin l'équivalent du chromosome 3 humain, je vais vous parler en termes, en nomenclature humaine, évidemment, et le 21, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a de la trisomie 21? Eh bien, simplement, le chromosome 21, c'est le plus petit de notre caryotype. C'est celui qui probablement porte le moins de gènes, à part le chromosome Y, mais ça, c'est autre chose. Et lorsqu'il est en trop, eh bien, il permet quand même le développement de l'embryon et du fœtus jusqu'à la naissance. Et évidemment, ces enfants peuvent vivre assez âgés, finalement. Donc, c'est parce qu'il est petit. Parce que s'il avait cette taille-là, ça serait la trisomie serait totalement incompatible avec la survie de l'embryon et du fœtus, parce que plus il y a de gènes, plus le chromosome est grand, plus tout déséquilibre qui le touche, c'est-à-dire plus la trisomie ou la perte de ce chromosome est délétère et moins l'œuf fécondé peut survivre. Bon, donc ce qui s'est passé, c'est qu'un beau jour, enfin je ne sais pas si c'était un beau jour, c'était un mauvais jour peut-être, il y a eu une fission et le chromosome 21 s'est isolé. Alors, on va reprendre ça et réfléchir un petit peu maintenant au pourquoi des choses. Alors, bon, nous repartons de l'ancêtre qui se trouve ici, qui a son 21 accroché à l'équivalent du 3. Et comme je vous disais tout à l'heure brièvement, nous avons étudié évidemment d'autres espèces, des rongeurs, l'écureuil, la souris, le lapin. Parmi les artiodactyles, le bœuf et le cochon. Parmi les carnivores, bon, ça c'est vous ne connaissez pas un paradoxurus, ça c'est le chat. Parmi ce groupe-là, que vous ne connaissez pas, c'est la tupaille, mais je pense que vous ne connaissez pas non plus. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que le 21 est toujours resté accroché à l'équivalent du 3. C'est ce qui est représenté là dans les schémas. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, il y a du vert et du rouge associés. Donc, ce qu'on appelle synténie, cette association entre des séquences du 21 et du 3, est une très vieille chose et s'est maintenue dans tous les ordres. Autrement dit, aucun de ces animaux n'est susceptible d'avoir un enfant trisomique 21, entre guillemets. Alors, comme je vous disais, un beau ou un mauvais jour, il y a eu l'évolution des primates. À l'origine, c'était le même chromosome, et ce même chromosome ancestral, on le retrouve non modifié chez le Microcebus, chez ce tout petit primate qui se trouve à Madagascar, et il a exactement le même aspect que, par exemple, chez le cochon. C'est le même chromosome conservé. D'autres se sont modifiés, bien entendu. Alors, bien entendu, ce Microcebus, il ne risque pas de faire une trisomie 21. Chez les autres lémures, il n'a pas été trop modifié, mais il était même accroché à d'autres, donc le chromosome est devenu encore plus grand. On arrive maintenant à l'évolution des simiens, des singes proprement dit. Donc là, on est à moins 70 millions d'années par là. Et ce qui s'est passé, et ça c'est grâce à la cytogénétique moléculaire qu'on a pu le voir, parce qu'au départ, on n'était pas assez capable de le voir, eh bien, il y a eu deux fissions différentes. C'est-à-dire que chez tous les singes du Nouveau Monde, le 21 a conservé, associé avec lui, un petit bout de 3. Donc, le chromosome est resté plus grand et éventuellement, il s'est rallongé par translocation. Par contre, ici, autour de moins 50 millions d'années, eh bien, il y a eu cette fission et le chromosome équivalent du 3 humain s'est définitivement séparé de ce qui est, par définition évidemment, le chromosome 21, puisqu'on est parti de là, on l'appelle 21 parce qu'on est parti de l'homme qui se trouve là-haut. Alors, nous sommes donc ici autour de moins 50 millions d'années d'évolution, entre moins 50 et moins 30, il faut être modeste parce que c'est assez imprécis. Nous avons une bifurcation importante, je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'arbre, avec les cercopithécoïdes, les macaques, les cercopithèques, les colobes, ça représente plus de 60 espèces là. Eh bien, tous les animaux que nous avons étudié 60 espèces, tous ont leur chromosome 21 qui est transloqué avec différents chromosomes. Il n'y a pas 50 formules, mais ça veut dire qu'assez tôt dans leur évolution, le 21 s'est transloqué avec le 15, avec le 20, avec, je ne me souviens plus pour celui-là, mais enfin, si, le 7, l'équivalent du 7 humain. Donc, il y a eu différentes translocations. Donc, ils n'ont pas de risque de trisomie 21. Chez les gibbons, même chose, sauf une seule espèce, ça c'est le nom de genre, peu importe, a gardé un chromosome 21 libre. Et l'épongidée, c'est-à-dire les grands singes, gorilles, orang-outans, chimpanzés et nous-mêmes, nous avons ce fichu chromosome 21 qui est libre. Alors on peut se demander pourquoi. Alors d'abord, la conséquence, on la connaît. Chez nous, il y a des trisomiques 21. Alors vous allez me dire, mais peut-être ce n'est pas possible chez les autres. Eh bien, pas du tout. Il y a pourtant relativement peu de chimpanzés, de gorilles et d'orang-outans dont on a étudié le karyotype. On connaît des trisomiques 21 chez l'orang-outan et chez le chimpanzé. On n'en connaît pas chez le gorille parce qu'on n'a sans doute pas étudié assez. Donc ils sont menacés par la même maladie. Alors pourquoi est-ce que ça s'est conservé? C'est ça le problème. Tous les autres ont été capables, il y a une centaine d'espèces presque, qui ont été capables de retransloquer, de raccrocher son 21 à un autre chromosome. Alors c'est là où on peut avoir une réflexion sur ce que nous avons été, sur la façon dont on s'est reproduit, sur notre propre développement. Nous sommes grands parmi tous ces singes. Les chimpanzés sont grands, on les appelle les grands singes. Les gibbons se trouvent un petit peu intermédiaires. Et les autres, les macaques sont encore assez grands, hein, mais enfin, ils sont beaucoup plus petits. Et notre développement est très particulier. Et je dirais, notre mode de reproduction est aussi un petit peu particulier. Nous avons une longue période de développement. Nous avons une longue enfance, comme les chimpanzés, gorilles, etc. Notre puberté survient vers 13-15 ans. Ben, c'est pareil chez le gorille et le chimpanzé, et l'orang-outan. Alors que chez les autres animaux, en quelques années, ils sont devenus pubères et peuvent procréer. Alors ça a tendance à réduire la période pendant laquelle on est capable de se reproduire. Maintenant, nous, on a perdu toutes les notions de reproduction et de difficulté avec les progrès de la médecine et de l'hygiène, mais... Et nous vivons longtemps, c'est-à-dire que les femmes, parce que le problème, comme toujours, c'est les femmes ont une période de reproduction plus limitée que les hommes. Et on va dire les mâles, en général, dans toutes les espèces, peuvent se reproduire pendant très longtemps, alors que les femmes sont tenues, évidemment, par la période de fertilité. Je vais parler maintenant de femelles, puisqu'on va quitter les hommes pour aller vers nos ancêtres, ou vers les pongidés actuels. Les femelles de pongidés, comment se reproduisent-elles? Je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais mieux que vous laissiez l'arbre, oui, plutôt que ma physionomie qui ne présente pas beaucoup d'intérêt. Je vous ai dit tout à l'heure, on a évolué pendant presque toute notre évolution avec les pongidés. Et cette période pendant laquelle nous avons été des pongidés, je vais plutôt vous le rappeler à partir de cet arbre-là, a été assez longue, puisque tout ça a été acquis. Donc, nos ancêtres se sont certainement reproduits comme les pongidés actuels. Les pongidés actuels, comment ils se reproduisent? Je vous disais, les femelles sont fertiles vers l'âge de 13-14 ans. Et puis, elles ont un petit, comme nous. On en a, en règle, un à la fois. Et une fois qu'elles ont leur petit, elles l'allaitent, comme nous. Mais l'allaitement maternel n'est pas très suivi, on va dire. On ne sait plus trop ce que c'est. Et puis, en plus de ça, on s'est un peu modifié. L'allaitement par la mère entraîne une stérilité, vous le savez, mais elle n'est pas absolue. Chez eux, chez les chimpanzés, gorilles, elle est absolue. Et vous, les dames, vous allaitez pendant quelques mois, mais c'est très artificiel aussi, si je puis dire, la durée de l'allaitement. Les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans, ils allaitent pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils sont stériles. Et puis, les dames le savent, quand on arrête l'allaitement, les règles ne reviennent pas tout à fait normalement. Il y a une période de stérilité encore. Elle dure près d'un an chez les chimpanzés, gorilles et orang-outans. Ce qui veut dire quoi en définitive? Ça veut dire que ces pauvres animaux, Et nos pauvres ancêtres ont eu du mal à survivre en termes d'espèces parce que un petit tous les 5 ans, quand on commence à avoir un petit à l'âge de presque 14-15 ans, ça ne fait pas beaucoup. Et puis, bon, bah, nous, on vit, et je le disais, les femmes peuvent se reproduire, enfin, vivent très largement au-delà de leur période de reproduction, tandis que dans la nature, les grands singes ne vivent pas très très longtemps. À 30 ans, c'est déjà des très 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 grands vieillards. La moyenne d'âge est certainement bien bien inférieure à ça. On le sait d'ailleurs que c'est naturel, parce qu'on sait même que pour l'homme, même si dans les pays développés, la durée de vie moyenne, elle est au Japon de, je crois, 60 ou 80 ans, enfin ça atteint des sommets, dans certains pays où la médecine n'est pas développée, la durée moyenne de vie, elle est plutôt de 30 ans que de 60 ou 80, 70 ou 80 ans. Donc on sait bien que la période de reproduction va être limitée. Et finalement, pendant cette période-là, ben, une femelle gorille ou orang-outan, moins chimpanzé qui nous ressemble peut-être un peu plus, va avoir la possibilité de procréer 3-4 fois au maximum, avec tous les problèmes de mortalité infantile, etc. Ça ne fait pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce que je vous explique ça? Eh bien, c'est parce que... vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autres diapositives? Parce que j'ai testé tout à l'heure, j'avais... Vous pouvez... Ah, c'est ça, d'accord. Parce que j'avais testé tout à l'heure, il n'en restait pas. Eh bien, c'est parce que il est difficile de faire une translocation. Je reviens. Nous avons notre chromosome 21 qui se trouve accroché à un autre. Et ben, lorsque les deux... Imaginons que ce soit un même individu. Lorsque les deux chromosomes ont la même translocation, imaginons que ce soit par translocation qu'ils se trouvent là, eh bien, il n'y a aucun problème particulier. Mais lorsque l'on doit... Lorsqu'on a un chromosome 3, par exemple, et un chromosome 21 séparés, si on doit les refusionner, on va nécessairement passer par un état où un seul des deux chromosomes de la paire sera transloqué. Forcément, les deux vont pas ça ne va pas se produire d'un seul coup. Et c'est là où interviennent tous les problèmes. Alors, j'ai deux, trois diapositives qui devraient aller avec mon propos. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image bizarre? Oui, s'il vous plaît, il n'y en a pas pour très longtemps. C'est ce qu'on appelle une méiose. C'est le moment où les chromosomes s'apparient. Ça, c'est un seul chromosome, un humain. Et ils échangent des fragments, et puis après, ils vont se séparer. Et, bon, celle-là est normale, mais voilà une méiose qui est assez exceptionnelle d'une personne qui avait justement une translocation du chromosome 21. Alors, voilà un chromosome, et voilà les 21 qui sont accrochés. Et lorsque on fabrique les cellules sexuelles, vous le savez, on réduit le nombre de chromosomes, ce qu'on appelle la réduction méiotique, eh bien, un chromosome va aller dans une cellule et l'autre va aller dans une autre. Et ben, s'il y a un chromosome qui est attaché à un autre, il risque de partir avec. Autrement dit, ça va déséquilibrer... Bon, je ne vais pas du tout entrer dans le détail, ça c'est une très vieille diapositive, mais un individu qui va porter la translocation du chromosome 21 sur un seul de ses chromosomes, ben voilà comment il va être. Il va être ce qu'on appelle hétérozygote, c'est-à-dire qu'il va avoir un chromosome double et puis les deux chromosomes normaux. Et lorsqu'il va fabriquer ses cellules sexuelles, eh bien, il va y avoir plusieurs possibilités de fabrication des cellules sexuelles, qu'on appelle gamètes. Alors, on peut soit avoir une trisomie pour le grand chromosome, c'est pas viable, ça va disparaître. On peut avoir une perte qu'on va appeler monosomie pour le grand chromosome, c'est pas viable, ça va disparaître. On peut avoir une perte complète de chromosome 21, ça n'est pas viable non plus, et ça va disparaître. Et finalement, on va rester avec ces trois possibilités. Donc déjà, vous voyez, il y a une perte de reproduction. Si un trisomique 21 naît, eh bien, il va falloir l'élever. Le chimpanzé ou le gorille qui aura un enfant trisomique 21 va l'élever, bien entendu. Donc ça va être une perte de tout un cycle de reproduction. Et puis, eh bien, il y a deux autres formules encore qui existent. Le maintien de la formule transloquée, c'est celle-là, le déséquilibre, c'est-à-dire que c'est la même chose que le parent, ou bien on revient à une formule normale, parce que simplement, ce sont ces deux chromosomes-là qui ont été fécondés, un œuf, par exemple, ou un spermatozoïde qui aura fécondé un œuf, et on aura la même formule que normalement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'être hétérozygote pour une translocation va réduire considérablement la reproduction. Alors, si on est un animal, comme un poisson, qui va émettre des milliers de cellules sexuelles, eh bien, qu'il y en ait qui ne soient pas bonnes dans l'eau, ça n'a pas d'importance. La translocation va pouvoir se maintenir perdue dans beaucoup d'autres. Et au hasard des fécondations, on va pouvoir voir deux fois la translocation. Autrement dit, on va pouvoir passer à l'état homozygote et arriver à une formule translocée. Alors, entre le poisson et le cercopithèque, il y a toute une différence. Mais enfin, je pense que plus on va vers une réduction du pouvoir de reproduction, plus il est difficile de faire des translocations de ce type dans l'évolution. Alors vous allez me dire, mais ceci est complètement contradictoire avec tout ce que vous venez de nous montrer, puisque vous n'avez pas arrêté de me montrer des remaniements chromosomiques dans l'évolution, et maintenant vous me dites, c'est difficile de les faire intervenir. C'est vrai, c'est une sorte de paradoxe. Si on retient l'hypothèse darwinienne que tout ce qui est bien est sélectionné, jamais remaniement chromosomique n'aurait dû survenir. Or, je viens de vous montrer que ce n'est pas le cas. Cela dit, ce ne sont pas n'importe quel remaniement chromosomique qui surviennent, et je terminerai sur ce transparent que vous avez déjà vu maintenant plusieurs fois. Alors, on va se focaliser encore autour de l'homme. Eh bien, dans ce schéma-là, les translocations sont représentées par des carrés, des petits carrés. Alors, bien que ce ne soit pas très net, vous voyez, des petits carrés, par exemple, il y en a beaucoup, là, il n'y a que ça. Ça, ce sont des prosimiens. Leur karyotype a évolué par translocation, beaucoup. Les inversions, c'est-à-dire un seul chromosome va faire inverser un de ces segments, sont représentées par des ronds, des cercles, pleins ou vides. Eh bien, presque tous les remaniements, bien que ce ne soit pas très net, sont des inversions. Et quand on regarde le type d'inversion, ce sont des inversions, je dirais, qui ne sont pas dangereuses, bon, je ne peux pas entrer dans le détail, en termes de reproduction. Donc, au cours de notre évolution, du fait probablement d'un certain nombre de paramètres qui ont fait que nous sommes devenus de grandes espèces à faible pouvoir de reproduction, seuls certains remaniements ont pu survenir. Alors, vous allez me dire, il y a une translocation là, mais justement, c'est celle du 2 que je vous ai montré, où ce sont deux très grands chromosomes qui se sont transloqués, et la trisomie de chacun de ces deux grands chromosomes n'est absolument pas viable. Donc ça n'a pas réduit réellement le pouvoir reproductif. Donc cette évolution chromosomique n'est pas du tout aléatoire. Selon qu'on considère les branches, je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les cercopithèques ont fait plein de fissions, donc d'avoir des petits chromosomes, ça ne les gêne pas. Les lémuriens, par exemple, ont fait beaucoup de translocations, c'est ce qui est représenté là. Ils ont réduit leur formule chromosomique sans trop de problèmes, apparemment. Et nous autres, eh bien, on maintient notre nombre chromosomique, à part la fusion des deux chromosomes qu'a donné le 2 humain. Nous, c'est pour ça que nous avons le même chromosome que les chimpanzés, enfin, le même nombre, un près, une paire près, que les chimpanzés, gorilles, etc. Nous sommes finalement très déterminés. Cette évolution ne marche pas du tout aléatoirement. En fonction d'un certain nombre de phénomènes qui vont se produire au cours de l'évolution, on va être de plus en plus vers des rails qui feront qu'on évoluera d'une certaine façon, ou du moins que nos chromosomes évolueront d'une certaine façon et pas d'une autre. Mais ça va certainement au-delà des chromosomes, puisque je vous disais, à partir du moment où des gènes sont apparus et qu'ils ont permis le développement de la grande taille que nous avons, associé à une période de développement qui est très certainement liée à l'intelligence, au développement de l'intelligence, eh bien, progressivement, notre pouvoir reproducteur a diminué, sauf que tout ceci a été inversé de façon très moderne par l'homme, puisque, malgré notre faible capacité à nous reproduire, nous avons une très bonne capacité à maintenir nos enfants, bien entendu. On n'a plus du tout cette mortalité infantile énorme qu'il existe partout ailleurs dans le monde animal. Donc, ça explique qu'après, notre espèce se soit répandue. Alors, ça explique aussi pourquoi les grands singes sont en train de disparaître. Ben, ils n'ont jamais été très nombreux. Les gorilles, bien qu'ils n'aient pas de prédateurs, ce sont des animaux très forts, ils sont très limités en Afrique. Les orang-outans aussi n'ont pas de prédateurs pratiquement. Ils sont très limités. Il n'y a que les chimpanzés qui sont plus répandus et pas en danger de disparition. Tous les autres sont en grand danger de disparition. Alors, l'homme est très responsable parce que progressivement, on détruit le pays où ils vivent. Mais il n'est pas le seul responsable. Ce sont des espèces qui existent depuis donc des millions, pour ne pas dire peut-être l'orang-outan, 10 à 20 millions d'années, mais il n'a jamais été capable de se répandre, probablement par les caractéristiques que je vous ai montrées. Je vous remercie.
Merci, merci Bernard Dutrieu. Nous allons maintenant passer à quelques questions. Des micros vont circuler, donc soyez assez gentils pour lever la main de façon à ce qu'on... Il y a monsieur au premier rang.
Il y en a une ici. Mais il n'y a pas de micro.
Non, mais il y a un micro qui arrive là. C'est lui.
Si votre question est courte, tu peux la répéter.
Ensuite, c'est ça. Attendez. Oui. Attendez, monsieur a un micro.
Oui. Pour qu'une mutation se perpétue dans une espèce, je vois trois possibilités. Premièrement, le clonage. Deuxièmement, la même mutation affecte plusieurs individus strictement au même moment ou du moins dans leur période de reproduction. Ou alors l'inceste. Quel est, si on le sait, le phénomène qui a prévalu ?
Bon, il y a aussi quand même la sélection d'une mutation qui serait un peu favorable. Je pense que les trois ont dû intervenir. On sait qu'il y a de ce qu'on appelle de la convergence, c'est-à-dire que de mêmes mutations peuvent se produire. On sait que la sélection va permettre le maintien de certaines mutations. Cela dit, est-ce que le clonage existe réellement ? J'ai eu tendance à dire que non tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne voit pas une espèce qui naît d'un seul coup à partir d'une autre. Pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que dans la spéciation, je pense qu'il y a beaucoup plus qu'une mutation qui va différencier une espèce d'une autre. Alors, il est peu probable que ces mutations, que 2, 3, 4, 10 mutations soient survenues d'un seul coup chez un même individu ou chez ses descendants qui le reçoivent. Et il est peu probable, surtout peu probable, que, mettons qu'on joue sur 3, 4 mutations, il est peu probable que ces mutations puissent se transmettre telles quelles, étant le chromosome 21 humain. Et on peut fabriquer des souris qu'on va dire transgéniques, c'est pas tout à fait transgénique, mais des modèles de souris trisomiques 21. Et effectivement, il y a plusieurs équipes dans le monde qui travaillent sur ces souris pour mieux connaître les déficiences ou les anomalies métaboliques de leurs cellules qui permettraient de mieux connaître les conséquences de la trisomie 21. Il n'y a pas de modèle, par contre, pour étudier les risques de survenue de trisomie 21, car, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre déjà très directement du karyotype de l'espèce. Donc, il y a des modèles animaux pour étudier la trisomie 21, ça c'est clair.
Et leurs applications ?
Pour l'instant, on n'en est qu'à apprendre un certain nombre de choses. On n'en est pas encore à avoir une thérapeutique. On est en train de... ça va beaucoup plus loin. La trisomie 21, c'est le gain de tout un chromosome. Progressivement, on a appris que la trisomie 21 n'était grave que par le gain de quelques fragments de ce chromosome. Donc, par le gain de quelques gènes de ce chromosome. Donc ça commence... On connaît la région critique toute petite du chromosome 21 qui est responsable de la maladie. Et on connaît quelques gènes qui se trouvent dans cette région du chromosome. Et le travail, effectivement, maintenant, consiste à travailler sur la fonction de ces gènes pour connaître les causes des anomalies qui surviennent en cas de trisomie 21.
On va finir par deux petites questions, vous, monsieur.
Oui, lorsque vous expliquez que l'évolution chromosomique...
Allô ? Allô, 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 allô. Allô ? Par ici, donc.
Hein ? Attendez, laissez monsieur attendre depuis longtemps. Donc,
Lorsque vous expliquez que ça ne marche pas.
Non. On va peut-être prendre d'autres questions avant.
Allô ?
Attends. Bon.
Ah, bon, très brièvement. Les bonobos, c'est-à-dire, il y a eu des articles fracassants dans certains journaux très réputés. Je vais vous repasser cet arbre-là. Le bonobo, voilà. C'est une espèce de chimpanzé et une revue scientifique aussi réputée que Nature a dit il n'y a pas tellement longtemps que cette espèce-là, qui est Pampaniscus, est un maillon intermédiaire entre le chimpanzé ordinaire et l'homme. Vous voyez tout de suite que c'est de l'élucubration parce que le bonobo est très proche du grand chimpanzé. Ils diffèrent l'un de l'autre, leur karyotype, par chacun un remaniement qui est survenu dans leur branche. mais en rien cette espèce-là ne vient se situer quelque part entre le chimpanzé et l'homme. Et ça, c'est vraiment un grand défaut de beaucoup de gens qui travaillent sur l'évolution, qui, à partir d'un caractère, font tout un roman et racontent tout un tas de choses. Et comme ça frappe beaucoup l'imagination, dès qu'on parle de l'évolution proche de l'homme, eh bien, tout de suite, bien que ce soit très léger, c'est accepté en publication dans de très grands journaux scientifiques internationaux. Et c'est très dommage, parce que vraiment, c'est une très grosse bêtise, comme vous le voyez. Et là, vous pouvez me dire, je me suis trompé, mais peut-être je me suis trompé pour un de ces remaniements chromosomiques. Pardon, l'homme, il est ici, d'ailleurs. Je me suis peut-être trompé pour un remaniement, mais il est évident que toutes ces anomalies sont acquises en commun entre les deux espèces de chimpanzés. Donc, c'est une vue de l'esprit.
Merci, Bernard Dutrieu. Je pense qu'on est obligé d'arrêter la...